massacrer. Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Le 23 avril, l'Église catholique fête Saint-Georges. Personnage du IVe siècle, Saint-Georges a fait l'objet de nombreuses représentations où la réalité historique et la légende s'entremêlent. Pour en parler, j'ai à mes côtés Jeanne Tornel. Bonjour Jeanne.
Bonjour Marie-Madeleine.
L'œuvre que vous avez choisie est un médaillon de 22 cm, fabriqué à Constantinople au XIVe siècle et qui est une petite merveille de mosaïque appartenant aux collections du Louvre.
Oui.
Alors, chers auditeurs, si vous voulez retrouver cette petite mosaïque, tapez Saint-Georges, Louvre, Lens. Lens comme la ville de Lens dans le nord, et vous devriez trouver l'image rapidement sur le site Saint-Georges, ce héros. Alors Jeanne, merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation, et puis d'avoir trouvé ce très joli médaillon qui nous donne un aperçu de l'épisode le plus connu de la vie ou de la légende de Saint-Georges.
Oui, tout à fait. C'est à la fois une icône et une mosaïque, ce qui est assez peu fréquent. C'est une icône portative, donc elle était destinée à être transportée par la personne pour la voir sur elle, pour la protéger, pas forcément pendant des voyages, mais pratiquement au quotidien. Cette icône est circulaire, c'est assez peu commun. On retrouve le plus souvent des icônes rectangulaires, ou carré, chez les Coptes notamment. Et là, cette icône circulaire est magnifique de par sa réalisation, parce qu'elle est faite avec des tesselles. Alors, on dit tesselle ou tessère.
Oui,
les deux tessèdre, sont admis.
Même tessèdre.
Même tessèdre.
Oui, oui.
Ces tesselles, donc ces petits morceaux de verre, sont minuscules.
Ce sont des petits cubes.
Pas plus gros que des têtes d'épingles. C'est un travail splendide. Cette icône est en assez bon état. Il y a juste un petit manque au niveau de du cou du cheval. Elle montre évidemment Saint-Georges dans sa représentation la plus connue, c'est-à-dire terrassant le dragon, terrassant le mal, tuant le mal. Là, il est à cheval, évidemment, puisque c'était un saint cavalier. Et ce Saint-Georges est dans une représentation très classique du XIVe siècle. Il est en armure, il a une grande lance, il a un visage impassible.
Oui, mais déterminé.
À l'antique, mais oui. Déterminé. Et on voit ses belles boucles blondes, il a un manteau magnifique, qui virevolte à son arrière, qui donne énormément de mouvement à la scène. Son manteau rouge, évidemment la pourpre, c'est la couleur du seigneur, c'est la couleur du bien, c'est la couleur de l'empereur. Donc c'est vraiment le vainqueur. Ce manteau rouge a des plis, c'est une maestria de réalisation, ce manteau. Vraiment, il s'envole comme une victoire s'envole. Il fait des plis et des replis, il a des ombres, il a des... Ah, les mots me manquent.
C'est rare.
C'est très rare. Là, Saint-Georges, évidemment, est sur son cheval. On voit qu'il a une armure ou une cotte de maille sur sa tunique. On voit les pans de tunique qui dépassent dessous, qui sont presque dans des transparences et qui ont également, en tant que tissu, des mouvements, des plis et des replis. Et en s'approchant, on voit les couleurs sur la cotte de maille. Il y a du vert, il y a de l'or, il y a du gris foncé, il y a du gris clair, il y a du brun. Et il y a même comme un dessin. Alors, on peut supposer que c'est une croix rayonnante qu'il a sur la poitrine, parce qu'on voit un bras qui part à l'horizontale. On voit qu'il y a aussi de la verticalité, puis des cercles concentriques derrière ces branches, et encore du rayonnant. Donc, c'est vraiment Saint-Georges est le bras armé de Dieu ou du Christ, et il va terrasser le mal sur son blanc destrier. Le cheval aussi est une merveille de réalisation. On voit très bien que c'est un cheval pommelé. Il est blanc et gris et il a ses petites taches sur la croupe, sur l'intérieur de la cuisse à l'arrière, sur le cou. Le cheval a une attitude très agressive face à la bête. Contrairement au visage impassible de Saint-Georges, lui, il a le regard flamboyant, il a les naseaux dilatés, il a la bouche ouverte, il tire la langue. Il est vraiment, on voit que ce cheval est prêt à piétiner la bête. Maintenant que Saint-Georges lui a enfoncé sa lance dans la gorge, le cheval va l'achever, il est cabré. Il est vraiment dans une attitude d'agressivité intense. Il est très très bien, il est fignolé, j'aimerais dire. On voit son harnais qui est multicolore. On voit, il a des oreilles très pointues qui ressemblent à un caparaçon.
Oui.
Il a sa crinière comme si elle venait d'être peignée. Sa queue est nouée. Tout ça, c'est réalisé avec des petits morceaux de verre, mais tout petits. C'est un travail magnifique. En partie basse, qui occupe à peu près un quart, mais vraiment en bas, en dessous, on a évidemment la bête,
oui.
Qui est un dragon. C'est à la fois un mélange de reptiles et d'oiseaux. C'est comme un serpent avec deux ailes et deux pattes d'oiseau, avec des serres, avec des griffes. Il est affreux, il est long, sa queue se tortillonne, il a des écailles.
Il est ignoble.
Il est ignoble. Il a tout pour vous paraître désagréable. Il a la tête renversée et la gueule ouverte. Et évidemment, Saint-Georges lui enfonce sa lance dans la gorge. Il est en train de mourir, il a les ailes déployées. On voit malgré tout, même si c'est l'ennemi et le mal, l'ennemi a été quand même soigné aussi au niveau de sa réalisation. Au bord de ses ailes, vous voyez deux séries de... Alors, ça ressemble à des petites fleurs, mais vous avez un point central et quatre points autour qui sont plutôt blancs vers l'extérieur et ceux de l'intérieur sont plutôt noirs. Donc, vraiment, ces ailes sont en éventail dentelé. La réalisation des écailles de son corps est très soignée aussi, avec allant du noir au brun clair en passant par de l'ocre. Sur le dessus, cet animal est brun, et sur le dessous, il a ses écailles vraiment très découpées qui sont dans des gris avec un peu de vert, un peu de jaune, et puis ses serres sont dans des couleurs de jaune et gris-vert. Vraiment, la moindre chose est détaillée dans cette icône. Et cette bête, ce monstre, ce dragon, est sur le sol. Le sol, comme dans les icônes, on met toujours quelques éléments d'architecture ou de contexte naturel. Or là, c'est le sol. Et le sol, c'est amusant, ne se contente pas d'être plat avec quelques couleurs différentes. Non, on voit qu'il est ouvert, qu'il est craquelé, parce que ce monstre va retourner là d'où il vient, c'est-à-dire aux enfers. Mort, il y retournera mort, mais vraiment, on voit les entrailles de la terre, là d'où il est sorti et là où il va retourner. Saint-Georges, sur son cheval, lui, est sur un fond vert foncé et il est vraiment, il est la victoire. Et Saint-Georges sort du cadre. Ça, c'est intéressant aussi à remarquer, parce que cette icône circulaire a un pourtour en bois doré. Et puis, il y a deux cercles, un cercle blanc, en tesselle blanche, et un cercle rouge qui signifie que vraiment c'est un saint. Ça symbolise l'auréole, ces trois cercles.
Et les couleurs aussi,
et les
blanc
couleurs.
Et rouge.
Le blanc, c'est la pureté.
Voilà.
Et le rouge,
et c'est... L'étendard que brandit Jésus à la résurrection est rouge et blanc.
Et rouge et
avec
blanc.
Avec une croix rouge. Hein.
Et ce Saint-Georges, donc, dépasse du cadre. On le voit à sa main droite, celle qui tient la lance. Il a l'épaule et le bras relevés pour donner toute sa puissance à son geste fatal. Et cette main touche le cercle rouge, mais le pouce et le haut de la lance dépassent. Et ça donne encore du mouvement parce qu'il sort du cadre. Même son auréole, qui est cerclée de blanc et de noir, ça, c'est une symbolique qu'on retrouve aussi dans de nombreuses représentations de cette époque-là. L'auréole en or est avec un petit damier, entouré d'un petit damier noir et blanc. On le retrouve de temps en temps. Et donc ce saint est vraiment le symbole de la victoire du bien sur le mal. Et Saint-Georges est le saint patron de très, très nombreuses congrégations, pays, armées, et notamment nos amis britanniques,
oui.
De qui il est le saint patron et de qui il tire aussi les couleurs de leur drapeau, l'Angleterre, la croix blanche sur fond rouge ou inverse, je ne sais jamais. Non, croix rouge sur fond blanc, pardon.
Oui, je pense, oui.
Croix rouge sur fond blanc. Donc, ils ont les couleurs de ce saint-là, la victoire du bien sur le mal. Et Saint-Georges est passé dans leurs expressions. On les entend en traduction par Saint-Georges. Oui. On le lit dans certaines bandes dessinées, telles Blake et Mortimer. C'est vrai
c'est
que...
Ça.
Mais vous avez aussi Saint-Georges qui est le patron du scoutisme, qui est le saint patron de la Géorgie, bien entendu, Géorgie. Il est le saint patron de l'armée bulgare, des chevaliers, des armuriers. Enfin, vous voyez, il a énormément de travail. Mais ayez la curiosité d'aller voir sur Internet tous les groupes qui se sont mis sous sa protection, c'est impressionnant. Il y a de quoi faire dérouler la molette pendant un moment.
Voilà. Merci Jeanne pour cette description magnifique.
Avec plaisir.
De cette petite icône ronde. Alors on peut revenir aussi sur l'histoire de Saint-Georges.
Ah oui.
Parce que vous avez décrit donc avec minutie cette représentation de Saint-Georges qui combat le mal.
Mmh.
Hein, voilà, c'est l'allégorie du vainqueur du mal. Mais pourquoi dans cette situation, doit-il combattre le dragon, hein? Voilà, alors on va toujours puiser dans un ouvrage qui est universellement connu, c'est-à-dire la légende dorée de Jacques de Voragine, qui était un dominicain du XIIIe siècle et qui a donc compilé l'histoire de tous les saints de son temps et avant son temps, bien entendu,
mmh.
Et qui est devenu aussi archevêque de Gênes. Voilà, donc on le retrouve dans des fresques à Gênes. Et donc il raconte que Saint-Georges était dans l'armée romaine, était officier de l'armée romaine, c'est pour ça qu'il y a le manteau rouge,
mm-hmm.
Hein, et qu'il arrive en Libye, dans un village qui s'appelle Silène, où il y a un roi, et les habitants sont terrorisés par un dragon, un terrible dragon, qui demande tous les jours sa part de chair humaine, c'est-à-dire tous les jeunes gens qui habitent le village doivent y passer. Voilà. Donc, alors au début, c'était des moutons. On lui a donné des moutons. Comme ça, il a été un peu trompé. Mais bon, voilà. Mais après, il n'y a plus de moutons. Alors, il a fallu que les jeunes gens se fassent manger et dévorer. Alors, évidemment, tout le monde était terrorisé jusqu'au jour où c'est la fille du roi qui a été choisie pour être mangée. Alors le roi est terriblement ébranlé par ça, parce qu'il a laissé manger tous les jeunes gens quasiment, Et puis, quand c'est le tour de sa fille, évidemment, il comprend ce que c'est que la douleur de perdre un enfant. Donc, il est un peu vilipendé par les habitants qui se révoltent en disant, bah, voilà, maintenant, c'est le tour de ta fille. Hein, voilà. Et évidemment, miraculeusement, qui c'est qui arrive sur son beau destrier blanc ? Saint-Georges. Et donc, il lui dit, mais ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Mais Monseigneur, fuyez, fuyez. Elle lui dit, fuyez, parce que vous allez être, vous aussi, mangé, etc. Parce qu'il est, beau et jeune encore, hein, voilà. Et donc, la princesse, eh bien, elle va plusieurs fois lui dire de s'enfuir, mais Saint-Georges est tout calme, il lui dit, ne t'en fais pas, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Et donc, évidemment, il combat le dragon. Et alors, il ne le tue pas tout de suite, il le blesse, enfin, d'après la légende dorée, oui. Toujours. Hein. Et le dragon devient comme un petit chien fidèle. Alors, la princesse prend une laisse, elle lui passe autour du cou, et puis le dragon la suit jusqu'au château, où alors là, évidemment, le dragon passe un mauvais quart d'heure et il passe de vie à trépas. Voilà. Mais voilà la légende que raconte Jacques de Voragine dans la légende dorée. Alors, légende ne signifie pas forcément chose fausse.
Et non.
Légende vient de legenda ou legenda en latin, qui veut dire qui doit être lu. Donc c'est tout à fait différent de quelque chose qui est faux. Si ça doit être lu, c'est que c'est vrai. Voilà. Bon, ça c'est une petite aparté, mais qui explique beaucoup tout ce qu'a écrit Jacques de Voragine, parce qu'on le prend souvent pour un fabuliste. Mais tous les peintres à partir du XIIIe siècle se sont inspirés de la légende dorée jusqu'au XVIIIe siècle. Bien bon.
Hein. Il y a toujours une part de vérité dans les légendes. Voilà. Et c'est ce qui nous fait aimer les légendes, c'est parce qu'on a envie d'y croire. Et j'ajoute que cette légende de Saint-Georges est très couramment utilisé, spolié, pompé, pour inspirer nos contes. Regardez La Belle au bois dormant.
Oui,
tout simplement. Le gentil chevalier qui arrive sur son magnifique destrier, qui combat le mal.
Et oui.
La méchante sorcière qui, à la fin, quand même, se transforme en dragon. Et il terrasse le dragon et il sauve la princesse. Là, on est dans un schéma extrêmement classique. Et en y réfléchissant, on a quantité d'histoires, c'est vraiment la base, le méchant dragon qui terrorise une contrée et qui fait prisonnière ou qui menace la princesse, et le chevalier qui arrive et qui délivre le pays. On trouve ça aussi dans le vaillant petit tailleur qui arrive et qui délivre le pays, bon, de trois mots différents. Dans toutes ces petits
contes,
dès le plus jeune âge, on est bercé par ce genre d'histoire.
Voilà, parce que il faut faire la différence entre le bien et le mal.
Et oui.
Hein, voilà, donc Saint-Georges est la personnification du bien et aidé par Dieu et Jésus-Christ.
Hein, bien
voilà.
Sûr.
Donc ça, c'est très important pour l'édification des fidèles.
J'ajouterai une dernière petite chose, c'est que cette pièce, on dit Louvre-Lens parce qu'elle est dans les collections du musée du Louvre. Mais le musée du Louvre a ouvert plusieurs...
Une annexe à
Lens. Voilà. Une à Lens et une à Abu Dhabi aussi.
Voilà. Oui,
et là, il est dans les collections du Louvre-Lens.
Voilà, exactement. Donc, merci beaucoup, Jeanne.
Avec plaisir.
Jeanne Tornel, de nous avoir décrit cette mosaïque, cette
icône
de mosaïque.
Icône. Oui, oui.
Merci donc à Imanol pour l'assistance technique. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous suivre dans ces émissions des Arts Sacrés. Vous pouvez donc nous retrouver en podcast en allant sur le site de Radio Présence Cahors à la rubrique Les Arts Sacrés. Donc nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro d'Arts Sacrés. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, Jeanne.
Art sacré. Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.